ça vaut le détour.
Bonjour, bienvenue à Ça vaut le détour, édition du lundi 4 avril 2016. Bonjour, ici Maxime Despomerleau. Bienvenue à Ça vaut le détour, notre première émission du mois d'avril. Aujourd'hui, on a une émission où on aborde plusieurs enjeux sociaux importants. On aura bien sûr des invités dont les propos vont assurément vous intéresser. Je vous invite à nous suivre sur Twitter avec le mot-clic CVLD pour Ça vaut le détour ou @canal_M pour interagir avec notre équipe des médias sociaux. Syrie, Irak, Libye, Afghanistan, Ukraine, des conflits font rage un peu partout sur la planète et après des décennies d'amélioration, la situation s'est brusquement dégradée l'an dernier sur le front des mines antipersonnelles, dont l'utilisation est en forte recrudescence dans les conflits armés. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale de la sensibilisation aux problèmes des mines et de l'assistance à la lutte anti-mines. On dresse un portrait de la situation avec M. Jérôme Bobin du Bureau de Montréal de Handicap International. On s'entretient avec lui à 12h45. Demain, le 5 avril, c'est la Journée internationale du travail invisible. Ne vous en faites pas, je ne parle pas ici de travail au noir, mais plutôt de la contribution des bénévoles et des aidants naturels. On qualifie le travail non rémunéré d'invisible, c'est dire que sa valeur n'est pas reconnue ou quantifiée dans les comptes nationaux comme le produit intérieur brut, le PIB. Bien que l'ONU, tout comme Statistique Canada, montre que ce travail constitue une grande richesse pour les pays, cette contribution tarde à être reconnue. On en parle avec Mme Mariette Gilbert, présidente de l'AFEAS Laval, l'Association féminine d'éducation et d'action sociale. On parle entre autres d'une conférence sur le sujet qui aura lieu demain à Laval. On vous présente aussi un segment spécial dans le cadre du mois de l'autisme 2016. Mais tout d'abord, on se penche sur les pénalités discriminatoires de la Régie des rentes du Québec. Je m'explique. Selon les règles de la RRQ, quiconque ayant bénéficié d'une rente pour invalidité entre 60 et 65 ans est considéré de la même manière qu'une personne ayant pris une retraite hâtive. Donc, le montant de leur rente de retraite quand les gens parviennent à l'âge de 65 ans est réduit parce qu'on tient compte des années durant lesquelles ils ont reçu une rente d'invalidité. Certains prestataires ne l'entendent pas de cette oreille et ils sont appuyés dans leur contestation par l'organisme Moelle épinière et motricité Québec, Mémo Québec, où je joins le conseiller principal en intégration, volet défense des droits, M. Nicolas Messier. Bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous nous expliquer tout d'abord en quoi consiste cette pénalité?
Bien, en fait, comme vous le disiez, pour tout bénéficiaire qui reçoit sa rente d'invalidité entre 60 et 65 ans, et donc parce qu'il est invalide et qu'il est incapable de travailler, peu importe le moment auquel elle a commencé à recevoir cette aide-là, sera pénalisée de 0,5% pour chaque mois, donc 6% par année, 30% sur leur rente, si on veut, projetée à l'âge de 65 ans. Pour donner un exemple clair, disons, quelqu'un qui aurait une rente d'invalidité, en fait, c'est qu'à 65 ans, pardon, la rente d'invalidité est transformée automatiquement en rente de retraite. Et donc, à 65 ans, une personne qui recevait 915 $ par mois, par exemple, de rente d'invalidité, va se mettre à recevoir 420 $ au lieu de 600, qui serait, disons, le montant de sa rente estimée à 65 ans.
Donc, on voit quand même une différence assez marquée dans les revenus. Le supplément du revenu garanti ne peut pas couvrir cette différence?
En fait, c'est effectivement un des arguments qui est avancé par la Régie des rentes pour justifier la pénalité, alors qu'en fait, selon les calculs qu'on a fait dans des cas types, si on veut, la couverture est très partielle ou voire nulle, et donc c'est le bénéficiaire qui va se mettre à assumer la pénalité assez rapidement du moment qu'il y a quelques revenus supplémentaires, complémentaires. Là. Donc, ça veut dire, par exemple, quelqu'un qui aurait des placements ou qui aurait un REER. Donc, très rapidement, de façon exponentielle, le montant du supplément de revenus garanti va diminuer jusqu'à devenir nul, finalement.
La pénalité est basée sur les montants reçus entre 60 et 65 ans. C'est bien ça?
En fait, c'est que si une personne qui ne recevrait pas de rente entre 60 et 65 ans ne serait pas pénalisée. Cependant, une personne qui reçoit une rente d'invalidité est normalement incapable d'exercer tout emploi réellement rémunérateur, ce qui fait en sorte qu'elle ne peut pas tout simplement décider entre l'âge de 60 et 65 ans d'arrêter de recevoir sa rente d'invalidité pour éviter d'être pénalisée. Ce qui fait en sorte qu'il y a donc un élément de discrimination basé sur le handicap qui est propre à cette mesure de pénalité-là.
Justement, les gens qui reçoivent ces prestations, c'est pas par choix, on le dit. Donc, c'est souvent un élément de santé qui vient modifier les capacités de la personne à occuper un travail. Ils n'ont pas d'alternative, ces gens-là.
Non, parce qu'en fait, c'est souvent le ce qu'on appelle un revenu vraiment de base là, qui est assuré par la rente d'invalidité, c'est une aide de dernier recours. Donc, effectivement, c'est des gens qui n'ont pas la possibilité de gagner leur vie en raison de leur limitation, et c'est pour ça que cette mesure sociale-là a été mise en place au départ. Et donc, la modification, en fait, amenant ces bénéficiaires-là à être pénalisé, date de 1997, et a été mise en application vraiment à partir de 1999. Donc, toutes les personnes qui ont commencé à recevoir leur rente d'invalidité après cette période-là sont pénalisées de façon très arbitraire.
Les compagnies d'assurance privée demandent à leurs bénéficiaires de faire une demande à la Régie des rentes pour diminuer le montant qu'elles ont à verser. Il y a donc aucun moyen pour ces personnes, finalement, d'éviter de recevoir des sommes de la RRQ pendant cette période-là?
Effectivement, ils n'ont pas le contrôle sur le fait de décider ou non de le recevoir. Et je vous dirais qu'il y a par exemple, même les bénéficiaires de la société d'assurance automobile, dont les gens qui ont eu un accident de voiture, se retrouvent dans la même situation. Donc, effectivement, c'est la société elle-même, la SAC, qui va percevoir, si on veut, la rente d'invalidité de la personne. Et de manière automatique, elle se verra attribuer la pénalité à l'âge de 65 ans.
Monsieur Messier, c'est seulement le Québec qui applique cette règle. Pourquoi donc?
En fait, c'est une bonne question. C'est sûr que le Québec est le seul à avoir... à s'être créé, si on veut, une régie de régie des rentes lorsque le programme, si on veut, national a été mis en place, qui fait en sorte qu'il y ait à part comparativement du reste du Canada. Et l'ensemble des autres provinces n'appliquent pas de mesures similaires. C'est donc une autre preuve, à notre sens aussi, qu'il y a vraiment un problème dans l'application de la loi au Québec.
Et quelles sont vos démarches auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse?
En fait, lorsqu'on a entamé le dossier en 2012, on a interpellé effectivement la Commission des droits de la personne sur cette question-là. Et la réponse qu'on a obtenue à ce moment-là était que la Commission ne considérait pas que c'était de son ressort, étant donné que c'était des éléments plus administratifs. Ils nous ont référé au protecteur du citoyen. Alors, au protecteur du citoyen, quand on s'est adressé à eux, ils nous ont dit que en tant que tel, ils considéraient que c'était vraiment plus un cas de discrimination et donc que ça ne relevait pas d'eux. Et ils nous ont référé de nouveau à la Commission des droits de la personne. Et donc, l'année passée, on a relancé finalement les deux en leur disant que, bon, on ne peut pas se relancer mutuellement comme ça. Et le protecteur du citoyen a vraiment décidé que c'était pas du tout à lui de trancher sur cette question-là et que c'était vraiment plus au niveau de la commission. Et on attend toujours une réponse de la commission depuis ce temps-là, qui s'est pas manifestée.
OK. Donc, en ce moment, il y a pas d'instance qui peut porter le dossier devant des tribunaux ou bien agir comme justement comme porteur de dossier auprès des instances gouvernementales.
Bien, c'est-à-dire que en ce moment, aucune de ces deux instances-là n'a volontairement décidé de le faire. Nous, c'est sûr que depuis qu'on a entamé le dossier, le gros espoir, si on veut confondre, c'est sur le fait qu'on nous dit qu'il va y avoir une consultation publique sur le régime des rentes du Québec, qui devait normalement se tenir à l'automne 2015 et qui, pour l'instant, n'a toujours pas été annoncée. On se tient donc au courant, on essaie de savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. Mais donc, c'est le moment où la population va pouvoir se prononcer sur cet élément-là. L'espoir qu'on fonde, c'est que c'est vraiment à ce moment-là qu'on va réussir à avoir une oreille au problème et qu'on va réussir à être entendu. Cependant, si effectivement on se rend compte que lors de la consultation, les résultats sont pas probants, il y a effectivement la possibilité de porter officiellement plainte au niveau des droits de la Commission des droits de la personne pour entamer une démarche légale. Cependant, c'est sûr que ce type de démarche-là est très, très longue, très compliquée. Et donc, on espère réussir à avoir gain de cause avant de se rendre là.
Oui. Monsieur Messier, est-ce qu'il y a eu des contestations de cette règle par le passé?
En fait, il y a effectivement, à notre connaissance, 6 causes qui ont été portées au tribunal administratif du Québec. Cependant, le tribunal administratif du Québec a plutôt le mandat de valider l'application en tant que telle des règles en place. Et donc, effectivement, les plaintes qui ont été déposées par des particuliers ont été déboutées, mais dans le sens où le législateur a considéré que l'application telle qu'elle était prévue par la loi était respectée dans ces cas-là. Donc, elle ne s'est pas penchée pour dire si elle était juste ou si elle était valable, mais bien si elle était appliquée de façon conforme, ce qui était le cas.
En terminant, M. Messier, s'il y a des gens qui sont, si on veut, victimes de cet état de fait-là, de ce flou aussi, en ce qui concerne la réglementation de la RRQ, qui bénéficient d'une rente d'invalidité et qui vont peut-être l'année prochaine, plus tard cette année ou dans les prochaines années, se voir amputer une partie de leurs revenus, qu'est-ce qu'ils peuvent faire?
En fait, j'invite tout le monde à communiquer directement avec Moelle Épinière et Motricité Québec, donc avec moi qui est responsable du dossier, pour qu'on puisse les guider dans le processus pour dépôt de mémoire ou d'avis lorsqu'il y aura consultation publique pour se faire entendre. Donc, les gens peuvent me contacter par téléphone au 514-341-7272 au poste 235 ou encore par courriel au nmessier@moellepinière.com. Et je tiens à mentionner que c'est pour les gens qui vont être pénalisés ou qui le sont déjà, c'est-à-dire qu'il y a déjà des gens qui ont commencé à être pénalisés, dont les rentes sont amputées. Il y en aura en fait de plus en plus, étant donné que une grande part de la population des personnes handicapées finalement arrive. C'est la première vague, si on veut, de personnes qui arrivent à l'âge de la retraite. Et donc, ce problème-là, qui est encore très inconnu dans le grand public, va prendre de l'ampleur dans les prochaines années.
On vous souhaite vraiment bonne chance dans vos démarches. On va continuer à suivre le dossier de près, notamment ces consultations publiques dont on attend l'annonce. Nicolas Messier, vous êtes conseiller principal en intégration, volet défense des droits chez Moelle Épinière et Motricité Québec, Mémo Québec. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
Merci à vous.
Sur le sujet, sont ben j'ose en direct. Le face allume, un meilleur monde les attend. Quelque part ailleurs, au firmament. Le sourire large de même galet qui gesticule. Avec leurs deux mains, des airs en majuscule. Ou ben tu bout des doigts pour t'expliquer ça. Ben non, crains pas, tu manqueras pas une virgule. Ils voient des lacs qui font des bombes dans l'eau. L'été, c'est bon pour les crampes au cerveau. Moi, Alpaga, ça me prend ta peau. L'automne arrive, faut que je me chauffe les os. Moi je pense à fille de Rouen. Mais comme dirait l'autre, d'où est-ce que tu penses que je viens? Massimo Québec au large, là-bas, à Caracat, au festival du Beluga, que ça se passe à pas. Les gorillas de moi, j'ai pris une shot sur ma gueule de bois. Pistache, cerise ou même melon, chocolat, à chacun son selon sa saveur du mois. Toutes les équipes s'entendent pour dire, pour rien au monde, on s'en passerait pas. À sans l'ennuyer que ça va titiller, je te d'un talon les jours d'été. Ou à l'ombre des cheveux, j'aurais été un animal du bout de mon nez. Requin, moi je pense à fille de Rouen. Mais comme dire à l'autre, d'où est-ce tu penses que je viens? Et oh la la lolo, et oh la la lolo, et oh la la lolo, et oh la la lolo. Chut, 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 ni tit, 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 tout le monde ensemble, we all love this. Tu tombes d'un arbre sur une peau d'ours, l'hiver est lent, slack la course. Au petit printemps, les quatre saisons, une gorgée de miel saveur maison. Le poids de manouk quand le verre jauni dans le creux de tes mains, que le ciel est gris. À snooze du bain au petit matin, ma belle grande face en tes deux seins. Moi je pense à fille de Rouen. Mais comme dire à l'eau, d'où est-ce tu penses que je viens? Et oh la la lolo, 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 et oh la.
La pièce lubrique de Bernard Adamus, Ola les Lolo, tirée de son album Sorel Soviet Sowat, une parution de 2015. Donner de la visibilité à l'invisible, c'est le défi relevé par cette Journée mondiale du travail invisible, célébrée depuis 2001. La reconnaissance de la valeur du travail invisible permet de valoriser les personnes qui l'accomplissent, généralement des femmes comme mères et aidantes. Pour discuter davantage des motivations derrière cette journée, je joins au téléphone Mme Mariette Gilbert, présidente de l'AFEAS Laval, l'Association féminine d'éducation et d'action sociale. Bonjour Mme Gilbert.
Bonjour Madame Pomerleau.
Donc la FEAS est à l'origine de cette Journée mondiale du travail invisible.
C'est ça. Je vous reprends juste un petit peu, c'est journée nationale.
Oh, nationale.
Pas canadienne.
Un jour, ça se rendra à l'international.
Oui, oui, parce qu'il y a de plus en plus de pays qui s'en préoccupent.
Tout à fait. Donc, votre organisme est à l'origine de cette journée pan-canadienne. C'est chaque premier mardi du mois d'avril.
Oui. C'est ça. Alors, on a créé la journée à l'intérieur de notre organisme en 2001, puis pour le Québec aussi, parce que l'organisme est présent partout à travers la province. Et en 2010, grâce à une motion de la députée Nicole Demers à la Chambre des communes, qui a été adoptée à l'unanimité, la journée est devenue nationale.
Et qu'est-ce qui entre exactement dans cette catégorie du travail invisible?
C'est particulièrement tout le travail familial, le soin aux enfants et le soin aux personnes en perte d'autonomie, que ce soit en perte d'autonomie temporaire ou permanente. Il y a aussi le bénévolat qui entre dans le travail invisible, mais nous, à la FEAS, on ne traite pas de cet aspect-là. Et dans les pays, dans d'autres pays, ben il y a aussi la production agricole et artisanale, et aussi le fait que les gens doivent mettre beaucoup de temps, par exemple, à chercher de l'eau ou des choses comme ça. Alors, Il y a beaucoup, vraiment beaucoup de travail qui se fait à ce niveau-là. J'ai vu que on estime qu'au Québec, pour les personnes aidantes, le total des heures, ça équivaudrait à plus de 60 000 postes à temps complet. Si on transformait le total des heures là, en postes à 35 heures semaine, alors ça équivaudrait. Alors, ça a une très grande valeur, une très grande importance aussi pour la société.
Justement, il y a des données qui datent tout de même de quelques années. En 1995, oui. L'ONU estimait à 11 000 milliards de dollars américains la valeur annuelle du travail invisible et non rémunéré, entre autres des femmes à travers la planète. Parce que c'est souvent majoritairement des femmes qui se retrouvent à justement occuper ces tâches de travail invisibles.
Oui, c'est encore majoritairement les femmes. Quoique au Québec, avec certaines mesures qu'on a adoptées, les hommes partagent plus les tâches. On pense entre autres au congé parental, mais au niveau des personnes aidantes, encore dernièrement, les statistiques qu'on me disait, c'était près de 80% des femmes qui le faisaient.
Madame Gilbert, si on prend l'exemple des aidants naturels, qu'il s'agisse du parent d'un enfant handicapé ou de quelqu'un qui s'occupe d'un proche vieillissant, cette personne fait économiser une fortune à l'État en favorisant le maintien à domicile de la personne.
Oui, en effet, c'est vraiment très, très important les montants d'argent qui sont à ce niveau-là. Pour, en fin de compte, le support financier que ces personnes-là ont, c'est certains crédits d'impôt qui sont assez pauvres et il n'y a pas de filet social pour les personnes qui effectuent ce travail. C'est-à-dire que il n'y a pas d'assurance pour les accidents de travail, il n'y a pas d'assurance chômage et il n'y a pas de mesure de remplacement. Ça veut dire que la personne qui effectue ce travail-là, si elle est malade ou qu'elle se blesse, elle doit assumer tous les coûts de son problème, mais aussi les coûts de remplacement de son temps à elle auprès de la personne qui est dans le besoin. Alors, c'est un très, très gros déficit à ce niveau-là. Et dans le cas des proches aidants d'aînés, ça peut être sur une très longue période ou encore pour les enfants qui sont lourdement handicapés, c'est des longues périodes. Il n'y a pas de retraite pour ça, et les personnes souvent soit réduisent leur temps de travail ou même quittent leur emploi avec toutes les conséquences que ça a au niveau de la dépendance financière et aussi du fait que c'est un appauvrissement pour toutes les étapes de leur vie parce que pendant ce temps-là, elles ne cotisent pas à un fonds de pension ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Et elles deviennent dépendantes éventuellement de leur conjoint ou de la société. Et c'est ce qui fait que même certaines personnes vont se retrouver à l'aide sociale avec la stigmatisation qu'on connaît pour ça.
Mm-hmm. Justement, dans notre émission du 30 mars dernier, on s'est entretenu avec Anouk Lanouette-Turgeon du mouvement Parents jusqu'au bout sur la réalité de ces mères d'enfants lourdement handicapés qui disparaissent du marché du travail conventionnel, mais qui acquièrent des compétences à côté qui ne sont pas reconnues par la société. Qu'est-ce qui... et c'est un exemple parmi tant d'autres. Qu'est-ce qui, selon vous... pourquoi l'État tarde à reconnaître et à soutenir, entre autres financièrement, les personnes qui font du travail invisible?
Bien, il y a d'abord une chose qui peut sembler un détail, mais le mot « travail » dans le Code du travail ne comprend pas tout ce travail-là. Mm-hmm. Alors, en partant, on ne le reconnaît pas comme du travail. Et ensuite... le fait qu'il n'est pas reconnu comme du travail, si on revendique, par exemple, que les gens aient accès à la régie des rentes, en disant ce travail-là a une valeur, mais il n'est pas reconnu comme travail, il n'est pas comptabilisé, Alors, ça semble être une montagne pour arriver à développer des mesures qui valoriseraient. Moi, je trouve, ce que je trouve aberrant, c'est que des gens qui fabriquent des biens de consommation qui sont nocifs pour la santé ou la sécurité des personnes, c'est un travail reconnu. Mm-hmm. Mais prendre soin des enfants comme de handicapés ou des personnes en perte d'autonomie dans le but d'améliorer la qualité de vie, mais c'est pas un travail. C'est pas reconnu. Alors, il y a des aberrations comme ça dans la société, et c'est ce qu'on souhaiterait arriver à obtenir des mesures à comment je pourrais dire, influencer un mouvement qui reconnaîtrait la valeur du travail.
Mm-hmm, parce qu'on s'entend que ce n'est pas du loisir, donc c'est vraiment du travail. Madame Gilbert, il nous reste à peine une minute. J'aimerais que vous nous parliez du dîner-conférence qui aura lieu demain à Laval. Donc, vous avez fait appel à Jean-Martin Hossan du Chantier de l'économie sociale comme conférencier.
Oui, parce que on trouvait que M. Hossan rejoignait à la fois nos valeurs en sens de son implication communautaire et familiale. Il a fait des choix aussi qui étaient fonction de sa vie familiale. Et puis, ses connaissances en économie. Alors, on espère qu'il va pouvoir nous faire la démonstration de l'importance économique de tout ce travail non comptabilisé pour qu'il soit inclus dans le produit intérieur brut. Puis pour nous, on considère que c'est vraiment un travail qui est essentiel. La société ne pourrait pas se tenir debout s'il n'y avait pas tout ce travail-là qui se fait. Alors, on reçoit pour le dîner-conférence. Alors, à 11h30, demain avant-midi à Laval, avec un dîner, puis ensuite la conférence de M. Hossan.
Oui, justement, je pense qu'on peut... Je vais donner les informations plus tard dans l'émission si oui. On veut se procurer des billets. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Mariette Gilbert. Vous êtes présidente de l'AFEAS Laval, l'Association féminine d'éducation et d'action sociale. Merci de participer à amener un changement social et reconnaître cette implication des bénévoles, des aidants dans ce travail invisible qui doit être reconnu. Merci beaucoup.
Bien, moi, je vous remercie de donner de la visibilité.
De retour à Ça vaut le détour avec Maxime Despomerleau.
Alors, ce dîner-conférence dont on vient tout juste de parler, qui aura lieu au Centre communautaire Saint-Joseph, situé à Laval avec Jean-Martin Hossan, concernant cette importance de reconnaître le travail invisible. Pour information et inscription, vous pouvez contacter le 450-972-7976. On poursuit avec un segment spécial, le mois d'avril étant le mois de l'autisme au Québec. Cette année, l'un des volets est de promouvoir l'employabilité des personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme. La Fédération québécoise de l'autisme envoie pendant tout le mois des cartes postales de sensibilisation aux employeurs du Québec avec le message « différent ou différente, mais tout aussi passionné, curieux, compétent ». Les jeunes vivant avec un TSA sont de plus en plus intégrés à l'école et décrochent un diplôme d'études postsecondaires, mais on constate encore des obstacles à leur intégration à l'emploi. Ce midi, on vous propose une entrevue réalisée le 2 novembre 2015 dans le cadre de l'émission Point commun avec Mme Ibili Robert, conseillère en orientation au Collège Montmorency et auteure du livre « Les personnes autistes et le choix professionnel ». L'augmentation, en fait, de la clientèle atteinte du trouble du spectre de l'autisme dans les cégeps a été de 400% depuis 2009, un chiffre impressionnant. Les personnes avec un TSA vivent avec un déficit persistant dans la communication et l'interaction sociale. Ils ont des activités et des intérêts restreints et répétitifs. Selon la Fédération de l'autisme du Québec, seulement 10 à 15 des adultes ayant un TSA obtiennent un emploi et le maintiennent, signe qu'il existe bel et bien des obstacles à leur, intégration professionnelle. Pour aborder certaines pistes de solutions, j'ai au téléphone avec moi Mme Émilie Robert, qui est conseillère en orientation au Collège Montmorency et auteure du livre « Les personnes autistes et le choix professionnel ». Bonjour Mme Robert.
Merci beaucoup.
Merci d'être avec nous. Donc, quels sont les principaux obstacles que rencontrent les personnes vivant avec un TSA une fois sur le marché du travail?
Mais en fait, il y a plusieurs obstacles qui sont sûrement très différents d'une personne à l'autre parce que on est ce que moi j'observe dans ma pratique, c'est que les personnes autistes ont un profil qui est tout à fait différent là, et unique à chacune. Mais de façon générale, si on doit en retenir les principaux, mm-hmm. sont évidemment en lien avec les principaux critères de diagnostic là, du TSA, c'est-à-dire la communication sociale. Donc, c'est sûr que dans la plupart des milieux de travail, on doit échanger avec des collègues, on doit gérer les attentes d'un patron, les attentes d'une clientèle et ce sont des choses difficiles pour les personnes autistes à décoder ce qui est non dit, à comprendre des règles qui sont implicites. Donc, c'est souvent à ce plan-là où ça l'accroche. Donc, les personnes autistes ont souvent des talents, des compétences qui sont assez pointues, mais c'est une fois qu'on est en situation de travail qu'on se rend compte que ils ont pas compris dans telle réunion d'équipe, puis c'est passé quelque chose, ou les collègues qui trouvent qu'il y a de la rigidité.
Oui, surtout que chaque milieu de travail a ses propres codes. On dit même que ça prend généralement 3 mois pour s'adapter à un milieu de travail, et ça pour tout type de travailleur. Donc, ça peut effectivement contribuer à ce qui est un peu d'obstacles à ce moment-là, à ce que ce soit plus difficile pour les personnes avec un TSA. Qu'est-ce qu'on peut faire avant d'aller sur le marché du travail, on a évidemment une formation. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la formation pour mieux préparer les gens avec un trouble du spectre de l'autisme à intégrer le marché du travail?
Bien, autant, dans la mesure du possible, de mettre ces étudiants-là dans des situations concrètes. Parce que c'est très difficile pour la plupart des jeunes autistes que je rencontre, quand on leur parle de façon abstraite, ah, dans le monde du travail, il va y avoir telle situation. Quand on le dit verbalement, comme ça, de façon abstraite, c'est dur à saisir, dur à se projeter mm-hmm. dans cette réalité-là. Donc, le plus possible de faire des stages ou des stages d'observation, de faire rencontrer ces jeunes-là, de faire rencontrer des professionnels qui font le vrai métier qu'ils s'apprêtent à faire, de rencontrer des potentiels employeurs pour que ce contact-là devienne plus concret et que la personne réalise quels seront ses principaux défis, puis cibler sur quoi elle devra travailler pour bien réussir là,
son intégration.
Son intégration et son maintien aussi en emploi. Puis c'est sûr qu'une chose que moi j'insiste beaucoup, c'est de j'aide les étudiants aussi à mieux comprendre leur TSA à eux, parce qu'il est différent pour chaque personne qui a un TSA, de mieux comprendre comment le verbaliser aux personnes non autistes, puis de se donner confiance à en parler. Parce que autant l'autisme est un trouble neurologique, on pourrait le considérer dans la catégorie des troubles invisibles quand on fait opposition aux troubles moteurs ou sensoriels, comme être aveugle ou muet ou tout ça. Mais je trouve que l'autisme n'est pas si invisible que ça et en situation de travail, les collègues et l'employeur vont rapidement se rendre compte que cette personne-là fonctionne différemment, que cette personne-là communique pas différemment, que cette personne-là semble avoir des rigidités ou s'entêter sur des choses qui ne semblent pas toujours des priorités aux yeux des autres. Mm-hmm. Donc, je trouve que c'est important que les personnes, les jeunes ayant un TSA, soient à l'aise à approcher l'employeur et de le nommer, qu'ils ont un TSA, de nommer pour eux très personnellement quels sont les éléments les plus sensibles, quels sont les légers accommodements qui peuvent les aider à être compétents au travail.
Oui, aussi dans le but d'éviter des situations ou de stigmatisation aussi de la personne de la part de ses collègues ou si on comprend moins aussi qu'est-ce que le trouble du spectre de l'autisme? Si on comprend moins, c'est plus difficile à ce moment-là de comprendre le cheminement de pensée de la personne avec qui on travaille.
Oui, c'est ça. Puis c'est sûr que c'est délicat. Vous avez choisi le mot stigmatisation. C'est sûr que c'est délicat. Certains ne veulent pas s'afficher parce qu'ils craignent d'être victimes de préjugés. Je comprends que c'est effectivement délicat. Mais je pense que si de plus en plus les personnes avec un diagnostic d'autisme vont parler de comment elles le vivent bien personnellement, les gens vont se rendre compte aussi qu'il n'y a pas qu'un seul profil. Hein. Souvent, il y a des jeunes qui vont me dire « Ah, je suis tannée de me faire comparer au fameux personnage de Rain Man,
oui.
là, ou de genre de savant fou un peu et un peu coupé du monde. » Puis c'est vrai que, cette image-là est stéréotypée et que sont tous différents. Mais je pense que plus que les employeurs vont côtoyer des gens qui ont un diagnostic de TSA, mais que qui ont des forces et des difficultés différentes, on va comprendre à un moment donné que c'est pas... ils sont pas si hermétiques que ça ou si difficiles à rejoindre et à comprendre que ça.
Non, tout à fait. On peut travailler avec eux. Justement, est-ce qu'il y a des milieux de travail qui sont plus ouverts ou qui conviennent davantage à un profil TSA?
Bien, en fait, encore une fois, vu que je trouve que la plupart des personnes autistes sont très différentes, ça va vraiment dépendre des habiletés et des difficultés de chaque personne. Mais encore une fois, ce que j'observe, moi, à cette étape-ci dans l'accompagnement que je fais avec les jeunes, c'est que les milieux plus créatifs sont plus habitués à avoir des profils de personnalité chez leurs employés qui sont un peu plus, comme on pourrait dire, là, excentriques ou qui sortent plus de ce qui est convenu. Donc, dans les milieux créatifs, dans les milieux en technologie aussi, des milieux dans lesquels ce sont des jeunes entreprises qui ont une culture d'entreprise plus malléable, c'est sûr que j'observe que les jeunes autistes sont plus acceptés. Il y a plus de tolérance à « ben oh oui, lui, il fait ses affaires comme ça » ou « oh lui, il était à l'horaire de travail » ou que par opposition à des grandes institutions, par exemple la fonction publique ou des institutions qui ont une longue tradition où on s'attend à ce que les employés aient à peu près tous le même type de
profil.
Oui, c'est ça exactement. Ben c'est sûr que ça va être plus difficile. Et une chose aussi que je remarque, ma clientèle, les jeunes que je rencontre s'auto-éliminent beaucoup des métiers de la santé. Puis c'est très correct là, parce que aussi ce que j'observe, c'est que dans le milieu de la santé, justement, que ce soit les cadres de travail, les façons d'agir, on donne peu d'espace à avoir un profil atypique. Là.
Oui, et comme vous le disiez, justement, dans les entreprises où c'est plus malléable, il y a moyen de mettre en place différents outils qui peuvent aider la personne, notamment peut-être même jouer sur l'horaire, qui peut encadrer davantage la personne. Il nous reste quelques minutes. Je voulais aborder, en fait, le fait que parfois, ça peut être un atout pour une entreprise d'employer une personne TSA. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner?
Bien, en fait, dans plusieurs domaines, encore une fois, tout dépendant des forces de la personne, mais pour donner quelques exemples, que ce soit d'abord dans les technologies ou dans les domaines plus créatifs, ce qui est intéressant chez les personnes autistes, c'est que les personnes non-autistes ont fait des choses, je dis « on » parce que je suis non-autiste, mais puis dans ce groupe-là, on fait des choses parfois par automatisme, sans trop se poser des questions. Depuis longtemps qu'on nous a expliqué, bien, ça se dit, ça se dit pas, ça se fait, ça se fait pas. Donc, il y a des choses sur lesquelles on ne se pose plus de questions et on les fait automatiquement. Les personnes autistes ne font pas ces liens-là que nous, on fait automatiquement. Donc, ça leur permet d'avoir un regard frais, nouveau, créatif, original, sur des choses qu'on pensait depuis longtemps réglées et casées. Donc, et aussi, pour beaucoup de personnes autistes, elles ont un souci du détail qui nous paraît exagéré. Mais dans certains métiers, c'est très avantageux. Tout ce qui est contrôle de qualité, vérification, je pense notamment à la révision linguistique, la traduction, la programmation informatique. Donc, tout ce qui est de vérifier le petit détail, qui est une tâche souvent ardue pour un cerveau non-autiste, eh bien, ils sont vraiment à leur place. Ils sont même plus performants que la plupart des personnes non-autistes.
En terminant, quelques secondes, quelles sont les ressources qui peuvent soutenir le jeune ayant un TSA dans ses démarches pour l'emploi?
Mais il n'y en a pas encore des tonnes, malheureusement. Les énergies sont beaucoup centrées sur l'aide aux familles d'enfants autistes et c'est légitime. Ces familles-là ont besoin beaucoup d'aide. Et là, plus que le jeune vieillit, c'est sûr qu'il y a moins de ressources. Dans la région montréalaise, il y a quelques organismes qui œuvrent, je pense à Action Main-d'œuvre, qui a des conseillers en emploi spécialisés à accompagner les personnes autistes. De plus en plus, dans différentes régions du Québec, on trouve des organismes d'aide à l'emploi qui ont une spécialisation. Parce que l'intervention, travailler avec des personnes autistes, c'est pas évident. Donc, ça prend des gens qui sont quand même assez dédiés à travailler avec ces clientèles-là. Et aussi, de plus en plus, dans les écoles, les cégeps, on a de plus en plus de ressources pour aider ces étudiants-là. Ils sont plus en plus nombreux, donc...
Comme vous l'êtes, justement, conseillère d'orientation au Collège Montmorency, Madame Émilie Robert, vous avez aussi écrit le livre « Les personnes autistes et le choix professionnel ». Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça me fait plaisir, Madame Pomerleau.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Au chant de l'alouette, on la couvre d'or. J'écoute l'alouette et ma plume s'endort. Au chant de l'alouette, on la couvre d'or. Je ne suis pas l'alouette et ma plume s'endort. Oh 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 oh, ma plume s'endort.
Elle marche sur mes ailes et je m'enlise.
Elle marche sur mes ailes et je m'enlise.
Je veux m'envoler, mais à quel prix? Après l'alouette, je n'ai plus d'amis.
Au chant de l'alouette, on la couvre d'or. J'écoute l'alouette et ma plume s'endort. Au chant de l'alouette, on la couvre d'or. Je ne suis pas l'alouette et ma plume s'endort.
Sa faute si je l'envie.
L'alouette ne mérite pas mon mépris. Ce n'est pas sa faute si je l'envie. Je toucherai le ciel un jour.
Andy Saint-Louis et ma plume s'endort, une pièce qu'on trouve très entraînante dans les studios de Canal M, tirée de son album du même nom, une parution de 2016. On vous invite à découvrir l'artiste. On termine cette émission de Ça vaut le détour, car aujourd'hui, c'est une grosse journée pour l'organisme Handicap International. C'est la Journée internationale de la sensibilisation aux problèmes des mines et de l'assistance à la lutte anti-mine. J'ai au bout du fil le directeur du Bureau de Montréal de Handicap International Canada, Jérôme Bobin. Bonjour.
Bonjour, Maxime.
Ça va bien?
Ça va très bien, et vous?
Oui, donc grosse journée aujourd'hui. On présume qu'il doit y avoir plusieurs demandes d'entrevue.
Oui, grosse journée, mais pas spécialement pour Handicap International, mais pour toutes les victimes de mines antipersonnelles à travers la planète. On est en effet dans une journée internationale qui nous permet à nous, acteurs du déminage, de l'assistance aux victimes, de rappeler qu'on est là sur un sujet qui est quand même très actuel, hein, malgré ce qu'on pense. Les mines antipersonnelles, c'est pas seulement un héritage des conflits passés, c'est aussi quelque chose de très présent aujourd'hui au Yémen, en Syrie, et on est confronté à l'usage à la nouvelle utilisation en fait de mines antipersonnelles.
Mmh. Justement, la lutte contre les mines antipersonnelles, c'est la base de la mission de Handicap International.
Oui, on est né pour ça, contre ça. Il y a une trentaine d'années, on était à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande. Et puis là, on s'est retrouvé à accueillir dans les camps de réfugiés des amputés, des personnes qui fuyaient le Cambodge et qui marchaient sur les tapis de mines antipersonnelles. Et puis, nous, nos fondateurs, il y a 30 ans, se sont dit, mais on peut pas laisser ces gens comme ça, dans les camps de réfugiés, au fond des tentes, sans appareillage. Donc, on a décidé de créer des appareillages peut-être pas aussi parfaits que ce qu'on aurait actuellement, mais en tous les cas, des appareillages qui leur permettraient de se remettre debout, tout simplement. Et tout est parti de là, de cette volonté de ne pas laisser ces personnes-là dans l'oubli, dans l'ignorance, mais leur redonner une place dans le paysage.
Mm-hmm. Qu'est-ce qu'une mine antipersonnelle, par exemple? Je parle surtout pour nos auditeurs. Comment on peut la décrire? C'est quoi la différence, par exemple, par rapport à une arme à sous-munition?
Alors, une mine antipersonnelle, ça va souvent être un boîtier, un petit boîtier, pas très grand, hein, d'une dizaine de centimètres de diamètre, quelque chose de rond, qui va être enfoui dans la terre et qui va avoir un mécanisme de déclenchement sur le dessus ou alors avec un fil bien dissimulé. Et donc, quand la personne va marcher ou se prendre les pieds dans le fil, ça va faire exploser cet engin qui est dissimulé au sol. À l'inverse, une bombe à sous-munition ou une sous-munition, c'est quelque chose qui sera plutôt largué dans un conteneur, une sorte de missile avec à l'intérieur plein de petites bombes. Et ces bombes vont se répartir sur un large territoire, exploser dans le meilleur des cas ou ne pas exploser. Et c'est là où le problème arrive, c'est qu'elles vont rester coincées sur des toits, dans les arbres, dans un jardin. Elles vont se poser comme ça au sol dans la végétation. Et du coup, une personne peut être en contact avec ces armes-là aussi.
Mmh. Quel est l'avantage pour un pays d'utiliser ces mines? Ça a l'air d'être une question un peu dure à entendre, mais tout de même, on sait que c'est encore utilisé et c'est même en recrudescence depuis 2 ans.
C'est un vrai sujet. Les mines antipersonnelles, en fait, c'est des armes de manipulation psychologique, c'est-à-dire qu'on crée des communautés qui vivent dans l'angoisse de savoir est-ce que le chemin que je vais prendre là, il est miné ou il est pas miné. Il y a un vrai aspect psychologique dans l'usage de mines antipersonnelles. Et puis, il y a aussi la volonté pour les utilisateurs de ces armes-là de laisser un héritage un peu macabre ou difficile, en tous les cas, à la société visée, parce qu'on va laisser une population de personnes en situation de handicap. Et donc, dans des sociétés moins développées, dans un contexte de pauvreté, ça va être très dur d'accompagner la personne en situation de handicap, de l'accompagner avec d'abord un appareillage, mais après, avec des soins de physio, avec tout un processus de réinsertion économique, réinsertion sociale. Et donc ça, les utilisateurs de ces armes savent très bien qu'en mettant des mines antipersonnelles, ça va laisser un fardeau à la société assez important.
Mm-hmm. Quelles sont les zones actuellement où est-ce qu'on retrouve le plus de mines antipersonnelles ou bien où est-ce que c'est dangereux de s'y trouver, d'y habiter?
Alors, il y a déjà une cinquantaine de pays qui sont concernés, donc ça fait beaucoup. Si on passe continent par continent, en Amérique latine, on en trouve beaucoup en Colombie, j'en reviens, j'ai eu l'occasion d'en parler sur cette antenne aussi déjà. Colombie, Pérou, ça c'est les pays en Amérique latine qui sont les plus concernés. Après, en Afrique, on en a un peu partout malheureusement, notamment au Sénégal, on en a au Tchad, on en a en République démocratique du Congo, on en a pas mal en Afrique du Nord, la Libye aussi. Tout le Moyen-Orient actuellement, j'en ai parlé, le Yémen, la crise en Syrie, les frontières avec la Syrie. On en trouve aussi en Inde et puis énormément en Asie du Sud-Est. C'est un héritage des conflits des années 70 et qui reste toujours d'actualité.
Mm-hmm. Quand le traité d'interdiction des mines antipersonnelles a-t-il été ratifié?
Il a été signé, ouvert la signature en 97. Et puis après, avec le jeu des ratifications qui sont nécessaires pour sa vraie entrée en vigueur, il est entré en vigueur en 99.
Et en quoi exactement consistait ce traité et quelle est la part du Canada par rapport à ce traité?
Alors, je vais commencer par la fin. La part du Canada, elle est importante, vu que ce traité porte le nom de la capitale canadienne. On appelle ça le traité d'Ottawa. Donc, à cette époque, le gouvernement canadien s'était beaucoup mobilisé pour réunir autour de lui à la fois des États qui étaient intéressés à interdire ces armes et des acteurs humanitaires comme Handicap International, mais comme bien d'autres aussi, pour que tous ensemble, on aboutisse à un traité qui était le premier de ce genre, qui était le premier traité à interdire une arme dans l'histoire humaine. C'est-à-dire il n'y avait jamais eu de traité qui interdisait l'usage, la fabrication, le commerce d'une arme. Mm-hmm. Donc ça a été un vrai apport, c'est-à-dire c'est une vraie révolution en termes de droit humanitaire. Après la mise en œuvre et qu'est-ce qu'il y a dans ce traité, le traité il est très clair, c'est-à-dire qu'il interdit l'usage, il interdit la vente, il interdit la production de ces armes et puis il oblige tous les signataires de ce traité à assister les victimes, assister soit en dépeuplant, en déminant les territoires, soit en appareillant et puis en facilitant la réintégration socio-professionnelle des individus.
Mmh. Retirer les mines, c'est très dangereux. C'est sûrement très coûteux aussi.
Oui, c'est le problème. S'il n'y en avait qu'un, non, il y a plusieurs problèmes avec les mines antipersonnelles, mais en effet, c'est très coûteux parce que ça prend des hommes, tout simplement. C'est un travail qui peut être fait avec des outils mécaniques ou même des animaux qui vont avec leur flair aller sentir s'il y a un problème ou pas. Mm-hmm. Mais au final, il faut toujours un contrôle humain. Et utiliser des hommes, très basiquement, dans n'importe quel pays du monde, utiliser des expertises, ça coûte très cher.
Le danger que représentent certains terrains minés doit aussi avoir des impacts sur l'économie, sur l'agriculture même de différents pays. Est-ce que vous soutenez aussi les communautés dans ces cas-là?
Mais c'est bien pour ça aussi qu'on démine, nous, les territoires. C'est pour redonner finalement accès à ces terrains-là pour cultiver, pour élever des animaux. On est typiquement dans cette situation-là en Colombie, avec des territoires entiers qui ne sont pas accessibles aux communautés qui vivent là, parce que des mines antipersonnelles bloquent l'accès à ça. Donc c'est un vrai frein au développement. Les mines antipersonnelles, on va souvent tout de suite penser à l'amputation. Mmh. Oui, il y a l'amputation, mais il y a aussi tout ce que ça empêche. Ça empêche de construire des routes, ça empêche de mettre des pylônes électriques, ça empêche de mettre des canalisations d'eau pour du tout à l'égout ou n'importe quoi. Ça empêche de cultiver, ça empêche d'élever, ça empêche un pays, une communauté de se développer.
Tout à fait. Jérôme Bobin, on lisait récemment justement un état de fait, si on veut, sur l'utilisation des mines antipersonnelles qui était en baisse continue depuis plusieurs années. L'élan s'est inversé sur le dernier exercice auquel on a accès, qui est de juillet 2014 à juillet 2015, où le nombre de morts et de blessés a grimpé de 12 %. Qu'est-ce qui explique cette recrudescence soudaine alors qu'on avait fait tout de même des bons progrès depuis la fin des années 90?
Ben, ce qui explique, c'est ce qu'on lit tous les jours depuis plusieurs mois, voire plusieurs années dans la presse, c'est-à-dire c'est les conflits, la crise en Syrie, le conflit au cœur de la Syrie qui fait fuir énormément de personnes. Mais si ces gens fuient la Syrie, c'est bien parce qu'elles sont en danger d'exploser sur ce type d'armement qui est utilisé par beaucoup de parties au conflit. C'est la même chose au Yémen, ça a été la même chose en Ukraine récemment, avec les différentes forces en présence qui ont utilisé ces armes explosives. Voilà, la recrudescence, elle est malheureusement mathématique, c'est-à-dire que plus on utilise ces armes dans les conflits actuels, plus le risque, et on le voit bien, d'accident augmente.
Mm-hmm. On a parlé des actions d'Handicap International dans la lutte aux mines antipersonnelles, les actions qui sont menées sur le terrain, donc à l'international. Évidemment, ce n'est pas quelque chose auquel on est confronté au Québec et au Canada. Par contre, vous êtes quand même actif au niveau de la sensibilisation et des actions politiques qui sont menées ici.
Alors, on aimerait être beaucoup plus actif en termes de sensibilisation. Après, on a beaucoup de combats. Handicap International a beaucoup de combats sur la table, finalement, et les mines ne sont qu'un combat d'Handicap International. Par contre, politiquement, on s'entend qu'on a devant nous un gouvernement, que ce soit l'ancien ou le nouveau, finalement, qui est très lié au traité d'Ottawa, ne serait-ce que parce qu'il y a son nom. Le nom de la capitale canadienne étant lié au traité, ça donne une forme de responsabilité de notre gouvernement. Après, il est vrai que depuis quelques mois, on assiste quand même à une prise de position plus ferme pour que le travail contre les mines antipersonnelles soit renforcé. C'est très bien, on va s'en réjouir. Il faut maintenant que ce soit transformé en acte, en effet. Et derrière, et on y travaille, on n'est pas les seuls. Hein. Il y a des partenaires dans le Canada anglophone qui sont très engagés aussi sur cette thématique-là. Et on travaille tous ensemble à faire en sorte que notre pays reprenne la place qu'il doit avoir dans cette thématique.
En terminant, Jérôme Bobin, si on veut soutenir les actions de Handicap International, comment on fait?
Différents moyens. Si on reste sur le politique, en parler à son député, à son représentant parlementaire, c'est déjà une chose importante. On a tous accès à des réseaux sociaux, donc on peut partager un certain nombre d'informations, on peut partager un certain nombre de mobilisations. Et puis nous qui sommes actifs sur le terrain, forcément, on a toujours besoin de financement, on a besoin de ressources financières pour mener à bien à la fois les projets de déminage et les projets d'assistance aux personnes victimes de ces armes.
On mettra l'information, notamment pour aller sur votre site web et vos médias sociaux, sur la page de l'émission. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui, M. Jérôme Bobin, directeur général du Bureau montréalais de Handicap International Canada. Merci.
Merci à vous.
C'est ce qui met fin à notre programme aujourd'hui. Je remercie mes invités, Jérôme Bobin de Handicap International Canada, Mariette Gilbert de la FEAS Laval, et on avait commencé l'émission avec Nicolas Messier de Moelle Épinière et Motricité Québec pour parler de ce dossier de la Régie des rentes du Québec. Demain, à Ça vaut le détour, on reçoit Émilie Bouchard de Sportcom pour parler de la couverture du sport paralympique et du rendez-vous de Rio qui approche à grands pas. Merci mon équipe technique, à la recherche et aux médias sociaux, Christiane Campagna, à la mise en onde de Jean-Sébastien Laliberté. C'était Maxime Despomerleau pour Ça vaut le détour. À bientôt.